Je vais évoquer aujourd'hui donc le paysage et l'environnement en Valais-de-Montmorency au XVIIe et XVIIIe siècle. Cette vallée de Montmorency est une région d'Île-de-France, un petit pays comme on a l'habitude de dire, d'une superficie de 144 km². Cette vallée est située au nord-ouest de Paris, dans un rayon compris entre 3 lieues et 6 lieues et demie pour les paroisses les plus lointaines, c'est-à-dire entre 13 et 28 km. Et malgré cette proximité et forcément l'influence urbaine qui en résulte, la région demeure un pays essentiellement rural. Si on devait faire un schéma rapide, on verrait qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une vallée, mais d'une vaste plaine qui est orientée nord-ouest-sud-est, plaine qui est bordée à l'ouest par la vallée de l'Oise, au nord et au sud par des buttes forestières, les buttes forestières de Montmorency et de Sannois. Et cette vallée, ce vallon, est ouvert vers l'est sur la plaine des Vertus, la fertile plaine des Vertus, qui s'étend depuis Saint-Denis jusqu'à Bobigny et Pantin à l'est. J'ajoute, parce que c'est important et on va s'en apercevoir plus tard, que le vallon compte 26 paroisses qui accueillent environ 13 500 habitants dans les années 1660 et qui connaît par la suite une forte croissance démographique puisqu'on atteint le nombre de 20 000 personnes au moment de la Révolution. Alors, il faut préciser que la vallée, comme on peut le voir sur la carte, est directement connectée à Paris. Toutes les cartes qui sont conservées aux archives nationales, et je pense notamment au célèbre Atlas Truden, et bien sur toutes ces cartes, on s'aperçoit que les deux routes royales qui desservent le nord-ouest du royaume passent par la vallée. La première, c'est celle que l'on voit ici, en rouge, au sud de la vallée. C'est celle qu'on trouve dans les sources, très généralement par route sous le nom de route haute de Rouen. Donc trouve son origine à Saint-Denis, traverse toutes les paroisses d'Épinay jusqu'à Saint-Ouen-l'Aumône. La route court ensuite à travers le Vexin jusqu'à Rouen, et puis à Rouen, séparation en deux. Une partie, un tronçon conduit vers Dieppe, le second tronçon conduit au Havre. La seconde route royale que l'on peut voir traverser la vallée, alors là, cette fois-ci, c'est sur la borne orientale, là aussi, elle trouve son origine à Saint-Denis. D'ailleurs, on a toujours la séparation aujourd'hui entre ces deux routes. Mais cette fois-ci, cette route royale se dirige vers le nord, où elle se divisera là aussi en deux tronçons entre Pierrefitte et Groslay. Un tronçon de cette route va mener vers Calais. Et Dunkerque, et le second tronçon va permettre d'arriver jusqu'au port des Flandres et du Boulonnais. Et en plus de ces deux principaux axes de communication, on a trois autres axes pavés, ce qu'on a classiquement l'habitude d'appeler chemin de traverse, qui sont à portée plus locale. D'abord, on a ici le pendant de la route royale de Normandie, qui est alors, en fonction des sources, le Grand Chemin de Paris, la Route de Paris, le Grand Chemin Pavé, donc qui traverse là aussi un bon nombre de paroisses de la vallée de Montmorency. On a le chemin de Maubuisson, le chemin de l'Oise. Là encore, en fonction des sources, la dénomination change. Donc cette fois-ci, borne occidentale de la vallée. Et puis, on a un troisième axe pavé qu'on trouve sous le nom de chaussée Jules César, qu'on trouve d'ailleurs toujours aujourd'hui sous le nom de chaussée Jules César ou de chemin ferré. Voilà, donc c'est cet axe que je vous montre là en jaune qui coupe, si on peut dire, qui traverse la vallée d'est en ouest en son centre dans la plaine. Donc on le voit sur cette carte, cette vallée est une région qui est un espace ouvert, qui n'est pas enclavé, qui a des liens avec Paris, avec les grands pôles urbains de la région, Saint-Denis, Pontoise, Saint-Germain, Versailles évidemment. mais c'est aussi une région qui est connectée avec le quart nord-ouest du royaume. Et on va voir un petit peu plus tard que toutes ces routes ont une influence loin d'être négligeable sur l'aménagement environnemental de la région. Alors j'en viens justement à cet environnement. Au XVIIIe siècle, on a un très grand nombre de géographes, de voyageurs, de curieux qui viennent de France, d'Europe, d'Amérique, et là je pense à Franklin par exemple, qui célèbrent la richesse et l'opulence d'un paysage, et là je cite Le Prieur dans son avertissement de sa description d'une partie de la vallée de Montmorency, qui présente un des plus beaux spectacles que l'univers puisse offrir. Et pourtant, au siècle précédent, la mise en valeur agricole ne ressemble en rien à l'abondance qui restera plus tard dans la mémoire collective. C'est une région qui est cernée au nord, à l'ouest, par la plaine de France, par le Vexin. Et la vallée s'inscrit dans la tradition des régions de grande culture qui entourent Paris. Dans les années 1640, on a du froment, du métail, qui s'élance encore dans les champs. Mais un double traumatisme vient transformer la perception qu'ont les habitants de leur environnement général. Au cours de l'hiver 1649 d'abord, puis au cours de l'été 1652, la région de Montmorency est frappée par les heurts de la Fronde. Et l'armée condamne d'abord, puis les troupes royales ensuite vont venir saccager tout l'espace, l'espace suburbain, l'espace périurbain qui est situé juste au cœur des axes de communication qui mènent à Paris et qui évidemment doivent normalement servir au ravitaillement de la capitale. Et là, on a une vallée qui est totalement ravagée, avec des blés qui sont pillés, des arbres fruitiers qui sont arrachés, les fourrages qui sont emportés pour nourrir les bêtes. Et on a également un très grand nombre d'habitations et de bâtiments qui sont détruits. Et on a même le village de Deuil, en plein cœur de la vallée, juste au centre de la vallée, entre les deux routes royales, qui va devenir le lieu d'implantation du camp de l'armée de Turenne, pendant les deux premières semaines de juillet 1652. Et quand les soldats vont quitter la région pour Compiègne le 15 juillet, l'agriculture, l'environnement, les sociétés villageoises apparaissent totalement déstructurées. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le processus de reconstruction, voire même de restructuration de l'environnement, c'est aussi l'appropriation du lieu de vie de ces milliers d'habitants à partir du milieu du XVIIe siècle et la manière dont les générations suivantes, jusqu'à la fin du XVIIIe, vont faire fructifier cet héritage. Et c'est pourquoi je vous propose d'observer les principales transformations paysagères de la vallée et à travers elle, forcément, je dirais, les transformations économiques et sociales qui vont frapper la région dès les lendemains de la Fronde, mais aussi, je vous propose de voir tous les mécanismes d'interdépendance qui lient l'ensemble des composantes environnementales, toutes jointes les unes aux autres, et par conséquent, leurs réactions croisées qui sont des conséquences des impulsions humaines. Alors, cette analyse interviendra au cœur d'un examen que j'ai classiquement divisé en trois parties. La première d'entre elles est consacrée à la charpente du paysage régional, c'est-à-dire le monde des champs, le monde de l'agriculture. Ensuite, je vous proposerai de gravir les buttes jusqu'à leur sommet pour mettre en avant les corrélations entre l'agriculture, la nouvelle agriculture et l'univers forestier, avant d'achever ce tour d'horizon en mettant en avant un autre miroir environnemental par l'intermédiaire du bâti villageois et plus précisément de la maison paysanne. Alors, comme je l'ai souligné, jusqu'au milieu du XVIIe, la vallée se fond dans cette ceinture céréalière qui entoure Paris. Et même si sur le flanc des buttes de Montmorency et de Sannois, on voit s'épanouir quelques clos de vignes qui appartiennent essentiellement aux abbayes de Saint-Denis, de Saint-Germain-des-Prés ou au chapitre Notre-Dame de Paris. Après la Fronde, La structure environnementale se trouve totalement désorganisée après les passages des armées. Mais je vais quand même souligner un paradoxe, puisque dès la fin de la guerre civile, on constate qu'un double processus de récupération et de transformation agricole débute. Pour cela, je m'appuie sur les 168 baux que j'ai pu analyser pour l'année 1653. Sur ces 168 baux, j'en ai 112 qui reprennent systématiquement deux formulations juridiques qu'on ne rencontrait absolument pas dans les sources de la première moitié du XVIIe siècle. Les preneurs se voient dans l'obligation de planter les terres labourables, je cite, « en bonne nature de vigne », ou de les rendre en fin de bail, en vigne bourgeoise et voisine. Et j'ajoute également que 17 autres baux présentent un impératif, c'est-à-dire que le preneur doit planter les perches de terre en vigne de bon complan. Les baux, évidemment, on vient de le voir, mais aussi tous les actes notariés comme les ventes, les échanges, les titres, apportent des informations complémentaires. Comme par exemple, je me suis amusé, j'allais dire, je ne sais pas si c'est de l'amusement, mais je me suis amusé à relever les adjectifs des parcelles qui sont déjà plantées en vigne. Et ce relevé est très instructif puisque 108 parcelles que j'ai pu retrouver déjà plantées en vigne, il y en a 85, c'est-à-dire 79%, qui sont en jeune vigne ou en jeune plant de vigne. Voilà. Alors, malgré tout, il faut pondérer l'image d'un vignoble qui est jeune et qui serait en plus spatialement homogène. Alors, évidemment, je crois qu'on ne peut pas nier l'existence d'un mouvement viticole régional qui serait antérieur de 30 à 40 ans au processus qu'avait observé Roger Dion en région parisienne. Mais la diffusion de la vigne en dehors des clos détruits pendant la Fronde est véritablement pensée par la paysannerie. Là encore, il faut se tourner vers les actes notariés et les conjuguer aux séries de cartes et plans dont on dispose. J'ai relevé les toponymes indiqués dans les actes. Je les ai localisés sur une carte et on s'aperçoit que la vigne est plantée non pas sur l'ensemble des terroirs, mais bel et bien à proximité des villages. Si je reprends mon échantillon global dont je parlais tout à l'heure, qui s'élève à 446 parcelles, on remarque qu'il y en a quand même 410, c'est-à-dire plus de 90%, qui sont localisés à moins de 400 mètres de la limite extérieure de leur tousse, des jardins. J'ai réalisé exactement la même démarche pour l'année 1665, et là, le constat est à peu près similaire, puisque sur 386 parcelles, j'en ai 84% qui répondent à ce critère de distance. Alors, pourquoi une certaine méfiance de la part des habitants? Déjà, je crois qu'il faut surveiller une culture qui est nouvelle. Je pense qu'il faut manipuler la vigne, il faut observer ses réactions face aux intempéries. On va aussi prendre en compte les remarques de ses voisins. Tiens, ce qu'il y a sur ta parcelle, qu'est-ce qui se passe, moi, comment ça se passe, voilà. Il faut la protéger des convoitises humaines. Aussi, il faut aussi la protéger contre les convoitises animales. Faut pas oublier non plus. Il y a également la question du problème du matériel qui n'est pas encore développé, le matériel viticole qui n'est pas développé. Ça, on le voit très bien dans les inventaires après décès des années 1650-1660. Il y a aussi le problème de la main-d'œuvre qui n'est pas, j'allais dire, qualifiée. C'est un terme contemporain, mais qui n'est pas encore experte. Mais pendant toute cette 30 ans à peu près, les habitants de la vallée vont malgré tout profiter d'une multiplication de facteurs conjoncturels pour introduire cette culture spéculative au cœur d'un système agricole qu'il faut, on va dire, créer de nouveau. Et cette nouveauté s'explique en partie par l'absence du suzerain, c'est-à-dire le grand Condé, Louis II de Bourbon, qui est dépossédé de tous ses biens meubles, qui est déclaré criminel de lèse-majesté en mars 1654 et qui ne reviendra dans la région, à Chantilly notamment, qu'après le pardon royal de 1659. Et pendant ces quelques années, bien son administration est plus préoccupée à la gestion des finances qu'à à aller voir ce qui se passe sur les terres à proprement parler. Et ces terres qui sont tout juste plantées sont en effet synonymes d'absence d'imposition. Et la paysannerie eh bien, ne prend pas véritablement de risque, si je puis dire, de risque économique, en introduisant une nouvelle culture, puisque de toute façon, elle ne sera pas taxée. Il faut aussi considérer la conjoncture dans un sens global. Comme dans le Hurepoix de Jean Jacquard, la paysannerie est contrainte de vendre des terres bon marché pour survivre économiquement. Et ce sont les bourgeois parisiens qui vont venir investir dans le marché foncier avec pour seul objectif d'accéder à la propriété foncière et non pas, comme par exemple en plaine de France, avec les fermiers, non pas de construire de vastes domaines. Il n'y a pas de remembrement foncier. On voit d'ailleurs que les parcelles achetées sont louées presque immédiatement dans la foulée pour produire un vin qui est issu de leur terre. Et ce basculement agricole, on voit qu'il est à la fois impulsé par les élites urbaines, mais ces élites urbaines laissent le cycle de production et de commercialisation aux mains des habitants. Alors, il faut aussi se poser la question du devenir de la viticulture. Est-ce qu'elle est vouée à se développer ou, au contraire, est-ce que c'est un échec ? La pluralité de la documentation montre qu'après toute cette période d'assimilation, la viticulture est une activité qui est ancrée au cœur de la société rurale. Et on peut même déterminer deux phases de croissance ultérieures jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est là où on remarque la spécificité de la vallée de Montmorency au sein même de l'Île-de-France. Marcel Lachiver observait une décroissance du vignoble depuis le plat pays de Paris jusqu'à Mantes au cours des années 1680-1690. Pour la vallée de Montmorency, c'est au contraire un autre processus qui est enclenché. Et pour juger de l'évolution, j'ai repris la même méthode que pour les années 1653 et 1665, mais cette fois, je l'ai appliquée à l'année 1690. Ce qui représente une étude sur 619 parcelles que j'ai pu retrouver. Et là, on a deux tendances qui se dégagent. Déjà, la vigne s'éloigne de la surveillance humaine, puisqu'on a 40% des parcelles qui sont éloignées de plus de 400 mètres des villages. Et en parallèle, on a un développement de la viticulture aussi bien sur les coteaux que dans la plaine. Et cette prolifération est notamment consécutive à une pression nouvelle qui est issue de la capitale, puisque depuis les années 1675-1680, la demande en vin à Paris explose. Alors, quand je dis à Paris, c'est très exactement autour de Paris, puisqu'on a une prolifération des guinguettes où on vient y boire du vin assez bon marché. Et les paysans de la vallée vont évidemment profiter du réseau routier dont on parlait tout à l'heure pour intensifier les plantations agricoles, même s'il est vrai qu'il y a encore une volonté de produire un vin qui est qualitativement honnête. Là, on peut s'en apercevoir encore dans les inventaires après décès, puisque les notaires consignent du vin vieux, vin vieil, qui se conserve, et du vin bon, loyal et marchand. Et le tournant définitif vers une viticulture intégrée au modèle de commercialisation est consécutif, bon là je pense que ça ne va pas être une immense surprise, consécutif au grand hiver de 1709, À partir du mois d'avril de cette année 1709, le mécanisme de récupération agricole achève la transformation du paysage qui a été entamé 57 ans plus tôt. Et comme en Alsace, dans le Jura, en Bourgogne, dans le Lyonnais, dans le Languedoc, autour de Bordeaux, on est face à la fureur de planter qu'évoquait Marcel Lachiver, qui engendre un accroissement des superficies du vignoble français. Mais en région parisienne, contrairement par exemple au Grand Vin de Bordeaux, il s'agit désormais de produire le plus possible sans se soucier de la qualité du produit, puisque Paris passe de 500 000 à 650 000 habitants environ entre 1700 et 1789. Et l'objectif est bien évidemment de répondre à la demande urbaine et au passage de profiter de toutes les possibilités d'écoulement dont on a parlé. Et ceci, au passage, implique une hausse des rendements et une détérioration de la qualité du vin. On va passer du Pinot au Gamay noir, ce qui va donner ce qu'on trouve dans les inventaires après l'essai, vin rouge médiocre, boisson rougie. On en a des litres et des litres conservés dans les inventaires. Cette diffusion induit une part non négligeable, évidemment, du vignoble dans le paysage, puisqu'à la fin du XVIIIe, Marcel Lachiver estime la densité de cèpes dans la région à environ 16 000, 17 000 pieds par hectare, alors que ces mêmes cèpes représenteraient, si on suit les procès-verbaux d'arpentage, même si on sait que le pourcentage n'est pas tout à fait vrai, une estimation de 25-26% de l'occupation du sol des 144 km² de la vallée. Mais je tiens vraiment à pondérer ces chiffres, parce que si le tableau que j'ai peint jusqu'à présent semble indiquer une espèce de monopolisation progressive des terroirs, une étude très minutieuse des sources, notamment grâce à l'ordinateur, à l'outil informatique, grâce aux bases de données et grâce au langage HTML, XML, pardon, excusez-moi, laisse apparaître une réalité qui est vraiment différente, et ce, dès les années 1650. En effet, les plantations de cèpes sont automatiquement réalisées sur des parcelles qui accueillent déjà deux autres cultures. Par exemple, je donnerai deux exemples. 1655, à Saint-Leu, nous avons Étienne Leblon qui va tenter sa chance sur 11 perches, je cite, de terre labourable plantées en foin de Bourgogne, c'est-à-dire du Saint-Foin, évidemment, et arbres fruitiers. Même année, sur le territoire de Taverny, donc juste territoire voisin, terroir limitrophe, Jean Masson est contraint de planter 10 perches de terre en arbres cerisiers et fèves haricotes en bonne nature de vigne. Et ces deux exemples montrent que dans une campagne qui a été ravagée, en pleine reconstruction environnementale, la vigne joue un rôle structurant pour l'agriculture. Alors cette configuration peut paraître étrange, surtout après les travaux de Marcel Lachiver et de Florent Quellier, qui associent un tel système au XVIIIe siècle. Ici, dès la seconde moitié du XVIIe, on s'aperçoit que les paysans du Vallon privilégient des associations qui vont se révéler très très intéressantes sur le plan commercial et sur le plan financier. Mais à l'origine, ce système agricole est mis en place dans un contexte de récupération environnementale et de reconstruction. En effet, pour disposer d'une production viticole optimisée, il faut attendre une dizaine d'années, douzaine d'années. Or, au cours de ce laps de temps, vous serez d'accord, je pense avec moi, que les villageois ne peuvent pas se permettre d'attendre les bras croisés, la croissance de la vigne, les premiers raisins, les premières vendanges, les premiers tonneaux à être vendus. Et pour cette société rurale, il va bien falloir vivre. Et ce sont les cultures voisines, mais des cultures qui sont sur la même parcelle, qui poussent sur la même parcelle, qui vont permettre d'engranger des revenus en attendant que la vigne arrive à maturité. Et une fois la vigne arrivée à son stade de développement maximal, c'est-à-dire au cours de la double décennie, 1660-1670 à peu près, au moment même où la production connaît une première phase d'augmentation sous l'impulsion de la pression urbaine, il serait facile de concevoir un ras de raisin dans le vallon, une colonisation massive des terroirs par les ceps. Mais la construction du cadre agricole ne coïncide pas du tout avec un développement unilatéral du vignoble, parce que si à partir des années 1680 et encore plus à partir de 1709, la vigne joue un rôle essentiel, il ne faut pas le nier, dans l'économie locale, sa place dans l'agriculture, dans le paysage agricole, n'est pas aussi fondamentale que l'approche spatiale le laisse entendre. En toute logique, l'abandon du système d'association de culture devrait concorder avec l'apogée du rythme de croissance de la vigne. Or, entre le dernier quart du XVIIe et la fin du siècle des Lumières, c'est un mouvement contraire qui est en train de se dessiner, qui se dessine. Peu à peu, la polyculture parcellaire subit une intensification que toutes les sources décrivent, y compris les terriers, y compris les aveux, qui n'évoquaient auparavant ni l'apparition de la vigne en plein champ, ni les premières associations de culture du quart de siècle précédent. Mais désormais, les associations de culture incarnent une espèce de norme locale, avec un système agricole qui s'inscrit sur un temps chronologique long. Et la vigne, bien qu'en plein essor, eh bien on va dire qu'elle se retrouve égarée au milieu des multiples combinaisons créées par les habitants. Et en conséquence, alors qu'elle servait d'élément fondateur de cette nouvelle agriculture après la fronde, eh bien la vigne n'est plus qu'un élément végétal parmi d'autres au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, la densité des cultures ne cesse de croître tout au long de la période 1680-1800. C'est ordinaire, je dirais, de rencontrer des parcelles sur lesquelles poussent simultanément 4 végétaux en moyenne avant l'hiver 1709, tandis qu'après 1720, la moyenne oscille entre 5 et 6 cultures qui poussent simultanément sur une parcelle. Et certains paysans parviennent même à aller au-delà de ce nombre. J'ai par exemple retrouvé François Dubost qui cultive à Montlignon une parcelle de 9 perches, c'est-à-dire 300 mètres carrés, en vignes, fruits rouges et pommes, poires, pois, fèves et autres légumes. Conjointement, le modèle local prône une diversification végétale toujours plus conséquente. Si les parcelles ne connaissent pas la monoculture, la vigne n'est plus automatiquement présente dans les combinaisons végétales. On a une extrême hétérogénéité des cultures qui est à l'origine d'associations variées, puisque en plus des cèpes, il faut compter, là, je vous ai mis la liste derrière moi, il faut compter sur les nombreuses espèces fruitières présentes en Vallée de Montmorency. Je pense notamment évidemment à la cerise, le cerisier, le pommier, le prunier, le poirier, le pêcher, les arbustes fruitiers, c'est-à-dire les groseilliers, les cassissiers, mais on a aussi les plantes fourragères avec le sainfoin et la luzerne, les plantes légumineuses avec les fèves, les haricots, les pois, les lentilles, parfois un petit peu d'avoine quand même, et puis bien plus régulièrement des légumes avec des asperges, beaucoup, des poireaux, des petits pois et des choux. Et on va ajouter à cela la pomme de terre, à partir des années 1780, et puis à partir des années 1790, on va ajouter le cresson. Bien sûr, ces cultures ne sont pas toutes évidemment associées en même temps sur les parcelles, mais l'adoption définitive de ce système introduit la vallée dans une sphère agricole qui est différente du modèle viticole francilien. S'il n'est pas rare de rencontrer des arbres fruitiers et des cultures dérobées dans tout le vignoble de l'ouest de Paris, une interpénétration si forte d'un nombre élevé de cultures n'est observable que vallée de Montmorency. Du reste, je crois qu'il est pertinent de s'interroger sur l'évocation d'un vignoble pour la vallée, surtout pour le XVIIIe siècle, puisque, par exemple, si on compare simplement avec l'autre versant de la butte de Sannois, on a le terroir d'Argenteuil, et le terroir d'Argenteuil atteint la phase agricole de monoculture, puisque Marcel Lachiver estime que la vigne monopolise plus de 60% du sol d'Argenteuil au même moment. Dans la vallée de Montmorency, la vigne est éparpillée sur les terroirs, elle est mêlée aux autres cultures et on ne peut pas dire qu'elle fasse partie d'une mise en valeur identique, surtout si on se réfère à certains écrits. Alors là, j'ai un peu au hasard, j'ai pris les écrits, les lettres d'un voyageur de Alexander Stanislas Wimpfen Bernburg, qui s'émerveille du spectacle que lui offre la contrée. Il estime, je le cite, que l'aspect de la vallée de Montmorency frappe l'imagination, et il avoue même que qu'il n'a point encore vu de paysage qui se présenta avec ce ton de richesse et d'opulence, alors qu'il a effectué énormément de voyages à travers l'Europe, à travers les Antilles françaises et à travers les Antilles espagnoles. Et l'implantation des cèpes est donc au cœur d'un double paradoxe, je dirais, puisque elle est à la fois issue d'une guerre civile, qui est genèse d'une renaissance agricole singulière, qui est elle-même basée sur la culture de la vigne, mais cette vigne est instigatrice, peut-être sans le vouloir, d'un modèle spéculatif de mise en valeur et qui devient au final un simple rouage d'une mécanique socio-économique, alors certes quand même structurée et quand même très pertinemment réfléchie. Et c'est ici justement qu'il faut s'interroger sur les raisons qui poussent les habitants à créer un microcosme unique. Le terme est peut-être un peu fort, mais autour de Paris et à s'éloigner de cette monoculture viticole. Faut d'abord souligner une structure foncière régionale qui ne cesse de rapetisser tout au long des XVIIe et des XVIIIe siècles. L'assise agricole a des surfaces extrêmement réduites et elle s'explique par le droit coutumier qui propose un régime successoral égalitaire. On est dans la coutume de Paris, et la coutume de Paris énonce qu'institution d'héritier n'a lieu, et puis elle précise également que les enfants héritiers d'un défunt viennent également à la succession dissolue défunt. Et alors ces titres ne font pas de différenciation sexuelle entre les héritiers, ils permettent à tous les enfants, masculins et féminins, de prétendre à une part des possessions parentales. Alors, le morcellement en soi n'est pas une fatalité, puisque la coutume permet de doter un enfant et de favoriser un héritier, mais les habitants de la vallée n'appliquent pas cette possibilité. Le droit coutumier, il est combiné à la vitalité démographique locale. Je vous rappelle qu'il y a une augmentation de 35% de la population entre 1660 et 1790. Ce droit coutumier conduit à réduire le sol en une vaste marqueterie de champs microscopiques. Je vous ai mis un exemple que j'ai pu observer, c'est celui de la seigneurie de Montmagny, donc qui est à cheval sur quatre terroirs, Montmagny, Deuil, Groulet et Villetaneuse. On a un premier terrier en 1675 qui dévoile un domaine agricole évalué à environ 560 arpents, c'est-à-dire 190 hectares, qui est constitué de 1499 parcelles, dont les deux tiers ne dépassent pas la superficie moyenne de 20 perches. 20 perches, ça représente à peu près 680 mètres carrés. En 1780, le terrier est rénové, le domaine agricole est identique, Mais le nombre de parcelles a été multiplié par un coefficient de 2,6 pour atteindre le nombre total de 3863, dont désormais 88% sont inférieurs à 20 perches. Et au passage, la superficie moyenne des parcelles passe de 37 perches en 1675 à 14 perches en 1780. Et comme les habitants exploitent de tout petits fragments fonciers, ils ne cessent d'enrichir les associations, car il est absolument hors de question de gâcher la moindre superficie foncière. C'est une rationalité spatiale qui anime les habitants de la vallée et qui va conduire à l'adoption des cultures très très productives. La vigne, évidemment, les arbres fruitiers, bien sûr, les plantes fourragères. Je rappelle qu'on peut avoir jusqu'à 3 coupes annuelles pour le sainfoin et jusqu'à 6 coupes annuelles pour la luzerne. Les plantes légumineuses, évidemment, qui, en plus de ça, ont la faculté de ressourcer la terre, et puis on a également les plantes maraîchères. Et on ne peut pas faire, vous en conviendrez, pousser des céréales sur des superficies aussi réduites. Là, encore une fois, je renvoie au Vexin, à la Plaine de France, qui sont juste à côté. Évidemment, faire pousser des céréales sur 20 perches sur 600 mètres carrés, le seuil de rentabilité est quand même... Il va falloir le chercher. Bien sûr, on sait que la vigne est idéale pour les petites surfaces, mais il faut vraiment prendre conscience que si ce choix du système de polyculture parcellaire est celui d'une société dans son ensemble, il s'inscrit également dans le cadre d'une économie marchande de l'échange qui reflète le rayonnement de l'individu. La pluralité des cultures n'est pas un hasard, puisqu'il est guidé par la possibilité, encore une fois, grâce aux voies de communication, de se rendre plus que facilement à Paris, qui est un immense marché, avec une possibilité d'écoulement des productions locales gigantesques, infinies, tout ce que vous voulez. Et si on examine bien ce qui est cultivé en Vallée-de-Montmorency, on se rend compte que les habitants proposent à Paris, des produits de qualité qui sont totalement différentes au XVIIIe siècle. On va avoir un vin de piètre qualité pour le petit peuple, des fruits très réputés, notamment la cerise de Montmorency pour l'élite urbaine. Avec certains produits, et je pense notamment aux plantes fourragères, on intègre même le circuit économique de l'échange et du contre-échange, puisque les villageois vont satisfaire les estomacs des chevaux de la cavalerie parisienne. Là encore, les chevaux toujours plus nombreux. Et, on va dire en échange, ils vont récupérer ces plantes fourragères sous forme de fumier pour accentuer la productivité de la terre. Et on voit bien qu'il existe une relation entre ce monde rural et ce monde urbain qui n'est absolument pas à sens unique. Paris va demander, bien sûr, mais Paris va également proposer. C'est ça qui est particulièrement intéressant. Et ça, les villageois l'ont particulièrement bien compris, puisqu'ils vont compter sur leur connaissance des rouages économiques pour garantir leurs intérêts. Et c'est là où réside le secret de ce système agricole, dans la gestion combinée de l'environnement, du temps et de l'argent. Tout d'abord, la mise en valeur locale vise à s'affranchir le plus possible des nombreuses pressions fiscales. Vous savez qu'il existe une maxime qui dit qu'on ne dîme pas le haut et le bas, c'est-à-dire que les fruits, tant qu'ils sont sur les arbres, ne sont pas décimables. Donc, cette exemption de la dîme va renforcer la densification du maillage arboricole. Il faut aussi se rappeler que les plantes fourragères, comme le sainfoin et la luzerne, ne sont, eux, décimables qu'au moment de la première coupe annuelle. Les suivantes sont totalement exonérées. Autre situation très complexe, qu'est-ce qu'on fait quand on a une nouvelle culture qui va apparaître, une novale? Eh bien, une novale est exemptée de la dîme à condition de prouver que l'impôt n'a jamais été levé sur cette culture depuis une quarantaine d'années. Et alors là, évidemment, il s'agit de se souvenir si, de mémoire humaine, on a déjà vu le clergé l'imposer, Mais je vous pose une question, comment est-ce qu'il serait possible de repérer une nouvelle culture dans un système agricole aussi riche ? Et c'est bien d'ailleurs ce que regrette le curé de Taverny en 1673, qui estime qu'environ 20% du terroir de sa paroisse est en ovale de vigne. Et la même année, on a le curé de Montmagny qui confirme la difficulté de l'exercice, puisqu'il dit que les terres ovales dont les cures de sa dite paroisse n'ont jamais joui sont exemptées à cause des frais considérables qu'il faudra faire donc pour lancer le processus. Je vous passe évidemment toutes les jurisprudences locales également. Asperges décimables ou non décimables, etc., etc. Donc on voit qu'on se sert du paysage, on se sert de l'environnement pour satisfaire ses commodités personnelles et pour profiter également de toutes les aubaines monétaires. On va additionner les cultures pour former un revenu global, mais on le fait de façon très pertinente, puisque la conduite de l'agriculture dans une formule aussi élaborée que celle que l'on vient de décrire, intègre une connaissance du cycle vital des végétaux et sous-entend par la même occasion un principe de précaution qui vise à contrer les conséquences des nombreuses crises climatiques, puisque avec les associations de culture, on essaye de parier sur la survie d'au moins un végétal en cas de dégâts. Et puis surtout, on étale sur l'ensemble de l'année ses rentrées d'argent, tout en proposant au marché parisien un ravitaillement ininterrompu et diversifié. Vous le voyez sur le calendrier que j'ai mis. Le vin est... En gros, il n'y a que au cours du mois de décembre où c'est assez difficile de vendre quelque chose. Le vin est quand même malgré tout vendu en hiver, le sainfoin, la luzerne au printemps, les premières fraises en mai, les cerises, les groseilles, les prunes, les poires, les figues, depuis la seconde quinzaine de juin jusqu'à la fin du mois d'août, la pomme à l'automne, les légumes frais entre juin et la mi-novembre. Donc vous voyez un étalement des rentrées d'argent dans le temps. Bien, on a un bon aperçu de l'environnement agricole de la vallée de Montmorency, une partie du paysage, de ses dynamismes, de ses impulsions, de ses mises en valeur successives. Et on a aussi vu que toutes les cultures sont liées, donc pour les raisons qu'on connaît désormais. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la construction, aux évolutions globales du paysage régional et à toutes les interactions qui existent entre ces composantes. Et je pense ici principalement à la corrélation qui unit l'agriculture et le monde forestier. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, la vallée est surplombée de buttes forestières au nord, au sud. Globalement, les superficies forestières représentent 25% de l'occupation du sol. Je vais me focaliser sur une étendue forestière en particulier. C'est celle qu'on nomme dans les sources la haute forêt de Montmorency, haute forêt d'Enghien, et qu'on connaît aujourd'hui sous le terme de forêt de Montmorency, forêt domaniale de Montmorency même. Alors pourquoi ce massif ? Pour deux raisons principales. D'abord, parce qu'elle appartient au Condé et entre les archives départementales du Val-d'Oise et la bibliothèque du château de Chantilly, on a une documentation complète qui permet d'avoir un panorama d'ensemble de cette forêt. Voilà, donc je vais vous passer toute la structure économique et d'exploitation, et je vais me concentrer pour aller un petit peu plus vite sur la transformation de la sylve. À la fin de la fronde, on perçoit une mutation de la perception que les habitants de la vallée ont de la forêt, et l'évolution va principalement se remarquer au niveau de la demande, puisque le bois de chêne est peu à peu abandonné au profit de l'essence de châtaignier. Malgré tout, appréhender la transformation de la Sylve demeure assez difficile, assez complexe, puisque les sources n'abordent pas de façon directe la question. Et il a fallu aller glaner ici et là dans le corpus pour prouver ce passage du chêne au châtaignier. J'ai d'abord utilisé les inventaires après décès, de la paroisse de Taverny, du minutier de Taverny, que j'ai mis en relation pour les années 1640 et 1690, avant la Fronde, après la Fronde. Et là, les résultats sont concluants, puisque pour 1640, on a trois inventaires qui mentionnent des réserves de bois, et il est toujours précisé que c'est du bois de chêne. En revanche, pour l'année 1690, plus du tout, plus aucune mention du chêne. Par contre, on trouve 8 évocations de châtaigniers et une de bois d'orme. Donc voilà pour un premier indice, il est très maigre. C'est pour ça que je me suis orienté vers les registres d'audience de la grurie de Montmorency, qui sont là très très riches, extrêmement riches, des dizaines de cartons. Et ces registres consignent tous les comptes rendus des délits qui sont observés par les gardes dans les espaces forestiers qui dépendent du duché. Alors, j'ai systématiquement dépouillé 8 années qui s'affichent derrière moi. Et pour ces 8 années, j'ai relevé 641 infractions sur le bois, parmi lesquelles 298 indiquent explicitement l'essence de l'arbre qui a été malmené. Donc j'ai écarté 23 mentions simplement d'arbres, de bouleaux, de frênes, de pommiers, et je me suis concentré sur le chêne et sur le châtaignier. Premier constat, 1640 et 1652, le chêne est la première essence à laquelle on s'intéresse, mais à partir de 1690, c'est le châtaignier qui devient l'acteur majeur des infractions, si je puis dire. Alors, ça ne veut pas dire que le chêne est totalement abandonné, évidemment, il existe toujours, on en trouve toujours dans la forêt, mais en plus petite quantité. Et là, on est typiquement dans le constat que faisait Michel Devez, je le cite, « Les transformations du paysage végétal sont très intéressantes à étudier, elles témoignent des changements économiques et sociaux. » Et là, on voit bien que le lien entre le développement de la viticulture, dont on parlait tout à l'heure, et celui des châtaigniers au sein des massifs est vraiment lié très très, très étroit. Première interaction, on la retrouve dans le cycle des coupes. La haute forêt est une forêt qui est menée en taillis simple, avec un cycle de 7 ans pour le châtaignier, de 14 ans pour le chêne. Donc on est loin de la... On est loin de la futaie, hein, on est loin de la haute futaie. Vous savez que les forestiers d'Ancien Régime détestent cette révolution. Et pourtant, si on y pense, elle n'est pas du tout illogique. Au contraire, puisque la viticulture est une activité qui demande un bois jeune, un bois résistant, et qui sont deux caractéristiques du châtaignier. Au cours du mois de juin 1733, on a un garde-vente des bois du roi, donc qui vient de Saint-Germain, de la forêt de Saint-Germain, qui vient faire quelques observations. Et lui aimerait bien que la révolution des coupes du châtaignier passe à 9 années au lieu de 7, car, je le cite, le taillis de châtaignier n'est pas dans sa force à 7 ans et qu'il profite beaucoup plus de 7 à 9 ans, qu'il ne profite jusqu'à 7 ans. Mais il obtient simplement une fin de non-recevoir de la part du gruyer pour une simple raison, c'est que le châtaignier coupé à 9 ans est déjà trop large pour en faire du matériel correct, ce qui induirait un travail de confection beaucoup plus long pour les artisans locaux. Pour faire simple, le châtaignier côtoie le monde du raisin, du champ, jusqu'à la commercialisation de la production. On a un premier rapprochement sur les parcelles où l'épanouissement des cèpes est impossible sans les échalas, qui sont obligatoires depuis les édits de François Ier de 1539, de l'édit d'Henri II de 1548, qui défendent d'échalasser avec du chêne dans le royaume. Et là, j'ai pu retrouver dans les minutes de notaire 15 obligations pour marchandises d'échalas, Donc 1665 et 1690, et il n'y en a aucun qui échappe à cette règle, hein. Ils sont tous en bois de châtaignier, ça, c'est clair, net et précis. Ce bois de châtaignier est réputé imputrescible, il a une durée moyenne de vie de 20 ans. Dans les environs de Paris, ils sont tous débités à 4 pieds et demi de longueur pour fabriquer les échalas. Et ce sont des dimensions qui ne nécessitent pas l'usage d'arbres qui sont évidemment exploités en futaie, comme je le disais tout à l'heure. Le bois de châtaignier intervient également dans le processus de fabrication du vin, avec les pressoirs, avec les cuves, et on achève la collaboration avec les futailles, avec les tonneaux qui servent à stocker le vin. En plus de ça, le châtaignier est un arbre qui est extrêmement productif, qui repousse très vite. Sa culture en taillis de 7 ans est idéale, on l'a vu, pour les échalas, pour les cercles également autour des tonneaux, et ça incite les bûcherons à effectuer des coupes au ras du sol pour que les brins repoussent le plus droit possible. Alors on a cette attirance pour le châtaignier, mais il faut voir aussi la collaboration d'autres essences avec ce monde de la viticulture. On a par exemple à Bessancourt, extrémité ouest de la vallée, le bois des Rosières qui accueille des bois bouleaux en grande quantité, comme il dit dans le document. Or, Duhamel Dumonceau signale que lorsque le bouleau est à la hauteur des taillis, on en fait des cerceaux pour des futailles dans la région de Paris, et quand il a acquis la grosseur de petites ridelles, on en fait des cercles pour les cuves. Donc vous voyez, les artisans de la région vont également profiter d'autres essences pour lier le monde forestier à l'agriculture locale. Je passe très très vite sur les comparaisons avec d'autres régions. J'aurais pu parler de la région de Laon, bien connue de Jérôme Buridan. On a exactement la même relation en Galice également, dans les Asturies, en Italie, en Campanie. C'est exactement la même chose. Et on voit que cette association de la vigne et de la forêt crée un domaine environnemental qui participe à la naissance d'une petite société humaine dans laquelle près de la moitié de la population vit directement ou indirectement du lien très étroit qui unit la viticulture et la sylviculture. Pardon. Je me suis concentré sur l'ensemble des rôles de taille de l'année 1780, donc à la fin de la période d'études, et sur 4060 déclarants, on a 47% de ces déclarants qui exercent un métier en rapport avec l'une des deux composantes, et parfois même les deux, puisqu'on a des vignerons tonneliers, des vignerons marchands de bois, des bûcherons vignerons, voilà. J'en arrive à la dernière partie où on va voir que les interactions environnementales vont s'insinuer jusqu'au cœur des villages, au plus près, je dirais, des acteurs de cette construction paysagère. Et je vais vous proposer, pour terminer ce rapide tour d'horizon, de vous emmener non plus dans les champs, dans la forêt, mais véritablement dans l'environnement bâti. Alors pourquoi s'intéresser au village et particulièrement à l'habitat paysan quand on parle de paysage? Eh bien, premièrement, parce que au même titre que le domaine agricole ou que la forêt, les axes de communication, le village fait partie intégrante de ce microcosme. Si on parle de paysage, on parle de quelque chose de visible. Or, le village, par définition, est quand même visible. Et dans le cadre d'une étude qui souhaite mettre en avant tous les liens qui unissent les composantes paysagères, la maison se révèle comme la marque humaine la plus visible et la plus empreinte de toutes ces relations. Et en quelque sorte, c'est un miroir de toutes les activités de cette société pré-industrielle. Alors, avec l'apparition de la viticulture dans les champs, conjuguée au développement du système agricole fondé sur la polyculture dont on a parlé, la paysannerie va transformer là aussi, à son tour, son habitat pour en faire un outil adapté. On va se rendre compte que les formes extérieures et les aménagements intérieurs de l'habitat subissent la triple influence des facteurs sociaux, facteurs économiques et bien évidemment les facteurs environnementaux. Voilà. Il suffit de lire tous les actes laissés par les notaires pour avoir une description de l'apparence générale du bâti. Dans les années 1640, on a une réalité qui s'approche de la vision traditionnelle, je dirais, de la maison paysanne, puisque 75% des maisons que j'ai pu rencontrer sont constituées d'un rez-de-chaussée à pièce unique, qu'on appelle le bassier, qui n'a pas vraiment d'usage précis, sans délimitation entre public et privé, et le tout surmonté d'un grenier, donc deux niveaux. Après la Fronde, dans les minutes de l'année 1665, on constate déjà une mutation qui est très très importante, puisque la maison va s'élever sur trois niveaux. Un rez-de-chaussée, on va avoir une spécialisation progressive, comme le dit Annick Pardaillé-Galabrin. La vie privée au rez-de-chaussée, espace public, le travail, puis l'escalier qui monte au premier étage, où là, on va être dans le domaine du privé. Et puis, troisième niveau, encore une fois, le grenier, espèce de coffre-fort de la famille où on conserve ce qu'on a de plus précieux. Alors, encore une fois, cette élévation, elle ne répond pas à une fantaisie paysanne, mais encore une fois, c'est une réflexion, c'est le résultat d'une réflexion pertinente qui vise à adapter la maison aux activités et à l'environnement. Si on suit les dires de Marcel Lachiver, j'y reviens encore, mais c'est indispensable, on est en présence du développement du modèle de la maison vigneronne, d'autant plus qu'il faut prendre en compte le morcellement parcellaire qui touche aussi les maisons et qui va obliger la paysannerie à développer une surface habitable non pas au sol, mais en hauteur, afin de ne pas empiéter inutilement sur les terres disponibles. Et alors là, encore une fois, c'est une logique qui est totalement différente des laboureurs des plaines céréalières d'Île-de-France qui, eux, vont privilégier la division horizontale de l'espace. La maison répond à des impératifs économiques précis. C'est un outil professionnel, d'une part, qui est le point central de l'exploitation. Deuxième chose. Et pour cela, il faut l'adapter. Et on va voir une nouvelle pièce qui apparaît. Cette nouvelle pièce, c'est la cave. Dans le quart de siècle qui suit la Fronde, le rapport est d'une cave pour deux foyers, alors que on ne retrouve que 6 caves pour 44 maisons visitées en 1640. Au-delà de la simple quantification, le plus instructif demeure l'emplacement des caves. En toute logique, une cave, ça se situe sous une maison, en sous-sol. Mais les descriptions des tabellions, insistent sur une réalité différente, mais c'est une réalisation tardive, postérieure, bien souvent, à la construction du logis. Par exemple, on a Jean Brideau qui achète à Nicolas Marin en 1665 une maison à haut étage sur la grande rue de Groslay avec, je cite, une cave et petit jardin dessus. Quelques mois plus tard, on a le curé de Groslay, toujours, qui devient propriétaire d'une maison cour et jardin, un coin duquel jardin lui a la cave dessous. Donc vous voyez, contrairement à ce qu'on peut penser, les caves ne sont pas toujours limitées par les murs porteurs de la maison, y compris pour les maisons qui sont construites une fois notre agriculture commerciale véritablement implantée. Je vous ai mis le plan d'une maison de vigneron, le vigneron Sébastien Fournier à Aubonne. Donc c'est un plan qui est joint au devis de construction de la maison en 1776. Et on voit donc, c'est un plan qui est très très précis et très précieux aussi, puisque c'est le seul que j'ai pu retrouver. On voit qu'il a une cave qui a 26 pieds et demi de long sur 10 pieds de large, 7 pieds de hauteur. Et on voit très bien que la cave que j'ai entourée en rouge se situe sous le jardin. L'autre transformation qu'il faut mettre en avant, cette fois-ci, c'est une transformation extérieure, c'est la transformation de la cour. Dans la sphère de l'habitat rural, elle est assurément le champ spatial qui répond le plus aux multiples exigences des occupants. La cour, dans les études historiques, est un petit peu négligée, alors que pourtant, elle est le point central à partir duquel va s'organiser toute la cellule familiale. Dans Vallée de Montmorency, les cours sont très très petites, superficie moyenne de quelques mètres carrés seulement, mais elles s'affirment comme cette espèce de chaînon entre le monde extérieur et le foyer. Et c'est elle également, c'est la cour qui va permettre de laisser passer le matériel qui est indispensable aux travaux des champs. Et c'est en ce sens que je l'aborde ici pour comprendre l'influence de la réalité agricole sur le bâti. En parlant de la cour, je vais évoquer la porte qui permet de pénétrer dans la cour. J'ai pratiqué une étude lexicographique de 35 actes qui décrivent les portes avec précision. Alors oui, j'en ai retrouvé que 35 qui décrivent la porte, mais à partir de ces 35 actes, on peut quand même trouver des choses intéressantes, et notamment son évolution. La hauteur et la largeur vont diminuer entre les décennies 1640 et 1780. Les actes notariés de l'année 1640 ne recensent que des grandes portes ou des portes charretières. D'accord ? En 1665, donc un quart de siècle plus tard, cette catégorie ne représente déjà plus que la moitié de l'effectif des portes. Et au contraire, on voit apparaître des petites portes et trois portes cochères. Donc au lieu d'avoir une charrette qui passe, on a un coche qui passe. Et puis, 50 ans plus tard, 1715, on n'a plus qu'une porte charretière. Et puis, on va voir que d'autres types de portes vont encore apparaître à la fin du 18e siècle. On va avoir des petits passages, les portes cochères, donc, et des portes sommières, donc qui laissent passer des bêtes de somme, tout simplement. Donc, vous voyez, on passe de la charrette à la bête de somme. Et cette diminution de la taille de la porte, c'est encore une fois une adaptation de la fonctionnalité de l'habitat à l'environnement, puisque pour aller sur son exploitation agricole, ses parcelles de quelques dizaines de mètres carrés, on n'a pas besoin d'avoir une charrette immense, on a juste besoin d'avoir un animal, une bête de somme, un animal de bât, un âne, un petit cheval, qui ne va pas nécessiter une porte absolument immense pour passer. Troisième espace également sur lequel je voudrais qu'on s'attarde et qui indique l'incursion dans la vitalité agricole régionale, dans le bâti, c'est l'espace qui est voué aux appentis. Je vais juste centrer sur la grange. La grange, dans les régions céréalières, sert surtout après les moissons, puis au battage des gerbes. En vallée de Montmorency, on assiste sur un temps long à un double changement, changement d'échelle, changement de fonction. À fond la fronde, la grange est une aire de battage. Après la fronde, la grange va évoluer en même temps que l'environnement. On va voir une réduction des superficies céréalières, donc forcément, on ne va plus véritablement avoir besoin de grange. Et pour vous donner un seul exemple, en 1780, à la fin de la période d'études, Nous avons Servet-Bourgeois qui met en vente la maison parentale à Saint-Leu. Et les bâtiments ont été mesurés. Et j'ai trouvé une grange qui a 17 pieds de long pour 10 de large. C'est-à-dire que c'est une grange qui fait 18 mètres carrés. Donc vous imaginez bien qu'une grange de 18 mètres carrés n'a pas du tout les mêmes fonctions que dans les grandes plaines céréalières. Au contraire, là, on a plus l'impression, au lieu d'une grange, c'est plus une remise plutôt qu'un très vaste entrepôt. Et dans les inventaires après décès, on remarque très bien d'ailleurs que dans les granges, il n'y a absolument plus d'outillage, il n'y a absolument plus de gerbes, mais on a le petit outillage qui est entreposé, quelques tonneaux, quelques chantiers, quelques cuves, et puis surtout on a tout l'outillage qui est utilisé dans le cadre de la polyculture, des échelles, montées aux arbres évidemment, des râteaux, des seaux, des bêches, des pelles, des binettes, des fourches, des serpes et des arrosoirs. Ce qui est également intéressant du point de vue paysan quant à l'utilisation du bâtiment, c'est la disparition du mot « grange » et l'apparition du mot « hangar ». Et donc, c'est bien ce qu'on disait, là, on est vraiment dans le cadre d'une remise polyvalente qui va accueillir les véhicules, les outils, parfois quelques récoltes, parfois quelques bêtes. Voilà. Dernier espace, et je terminerai là-dessus, sur lequel je voudrais insister, c'est celui qui est derrière la maison, qui fait le lien entre le paysage villageois, le paysage bâti, et le paysage végétal, paysage agricole, paysage forestier. Ce dernier espace, c'est le jardin. Dans l'esprit paysan, vous savez que le jardin fait indéniablement partie de l'habitat. C'était une idée qui était avancée déjà par Marcel Lachivère, auparavant par Roger Dion, pardon. Et ça, on le voit très très bien dans tous les baux, puisqu'on devient locataire ou propriétaire d'une maison cour et jardin. Ce jardin, on le voit très bien sur le plan d'intendance de Saint-Leu. Alors j'ai pris Saint-Leu parce que c'était là où j'habitais avant, mais j'aurais pu mettre n'importe quel plan d'intendance de la vallée. On voit très bien que le jardin va agir comme un espèce d'intermédiaire charpente bâtie, charpente agricole du paysage. Néanmoins, il n'en reste pas moins un paysage, un espace clos. Et c'est d'ailleurs le seul espace clos, puisque dans la vallée de Montmorency, on est dans une région d'open field, une campagne à champ ouvert, mais on protège le jardin. On a besoin d'une haie, une haie vive, une muraille. Parfois, on mélange les deux également. Et le jardin, vous le voyez, est un lieu privilégié dans le paysage. D'une part, à cause de sa soustraction au régime des contraintes collectives. D'autre part, parce que les cultures qui poussent sur les parcelles horticoles sont exonérées de toute fiscalité, encore une fois, très important, et notamment la dîme. La paysannerie, là encore, va agir avec réflexion, puisque similairement aux parcelles agricoles, la superficie des jardins est très réduite. Alors, je vais juste pointer ici les baux de l'étude notariale de Franconville. En 1780, le notaire rédige 12 baux, dont 10 sont vraiment exploitables. J'ai 4 baux qui citent avec minutie la superficie, entre 1 et 4 perches, c'est-à-dire entre, on va arrondir, 35 mètres carrés et 150 mètres carrés environ. Et 6 jardins. Et 6 fois, il fait précéder le mot jardin de l'adjectif petit. Donc on voit bien ici l'interdépendance structurelle, cette fois-ci structurelle, entre le jardin et le champ. Je crois qu'il faut mettre en relation le développement du système d'association de culture avec l'exploitation agricole. Je pense que c'est obligatoire. Parce que si les habitants enrichissent la polyculture dans les champs, c'est qu'ils connaissent la réaction des cultures, c'est qu'ils ont appris les techniques pour les cultiver simultanément, c'est qu'ils ont estimé aussi la rentabilité du système, et c'est surtout qu'ils l'ont déjà expérimenté auparavant. Et le jardin est, et là je rejoins ce que dit Florent Quélier notamment, c'est un laboratoire qui permet d'optimiser un espace réduit de la manière la plus rationnelle qui soit. Ça, je vous montre un plan qui est joint à un partage de biens. Un partage de biens en 1780. C'est un document qui est rare, hein, puisque j'ai pas trouvé énormément de plans horticoles, de plans de maison. Mais on a quand même une ébauche iconographique sur laquelle sont dessinés les différents végétaux du petit terrain. Donc vous voyez, c'est celui qui est noté F et que j'ai pointé d'une flèche rouge. On a 7 plantations différentes si on compte les petits dessins du notaire. Et les carrés de culture, ces carrés de culture, je pense qu'ils transcrivent une réalité horticole qui est fille de la diversité, mais qui maintient malgré tout une organisation qui est très pertinente. L'arboriculture fruitière illustre la logique dont on parle, puisque les greffiers différencient toujours deux ensembles quand dans un jardin, on a des arbres en plein vent et des arbres en espalier dont les branches sont conduites le long des murs. En 1755, toujours à Franconville, donc je reviens un petit peu en arrière, on a une description d'un jardin où on nous dit que le tronçon latéral entouré et clos de murs le long desquels sont en dedans ledit jardin des espaliers planté d'arbres pêchés, pruniers et autres. Et puis, on a un terrain central planté en partie de chasselas et arbres fruitiers. Et il est donc clair que le jardin subit des divisions qui sont engendrées par le cadre de la diversification. La zone à proximité des murs n'accueille pas que des arbres en espalier. Donc évidemment, on a parfois la technique des contre-espaliers qui vont permettre aux arbres de bénéficier de la chaleur renvoyée par les murs, évidemment. Mais elle favorise aussi une utilisation qui est assez raisonnée de l'espace, puisque en plus de faire courir les arbres le long des murailles, eh bien, au pied, on va avoir d'autres cultures, les asperges, les pois gris, les pois blancs, les pois verts, les choux, les laitues, les lentilles. Voilà, ce sont quelques exemples que j'ai pu retrouver dans les actes. Et cette cohabitation de cultures, on va la retrouver au fur et à mesure dans les champs. Je pense que le jardin est un domaine expérimental, et une fois que la technique est assimilée, cette technique va se retrouver dans les champs par la suite. C'est d'ailleurs également ce que dit Florent Quélier, puisqu'il estime que le jardin serait précurseur des futures techniques de culture qu'on trouve après dans les champs. Voilà. Donc, au terme de cette présentation, je conclurai en insistant sur le fait que la vallée de Montmorency constitue, grâce à son paysage, une région absolument privilégiée pour observer les relations que les sociétés humaines entretiennent avec leur lieu de vie au XVIIe et au XVIIIe siècle. Pour la période sur laquelle j'insistais aujourd'hui, on a tous les documents qui permettent de comprendre les aménagements environnementaux, minutes de notaire, actes du pouvoir royal, actes princiers, actes ecclésiastiques, sources judiciaires, cartes, plans, etc., etc. Après les destructions qui sont causées par la fronde, on a bien vu qu'il y a un réaménagement global, vraiment, de cet espace. On a d'abord l'agriculture, évidemment. On va avoir la forêt parallèlement. On va avoir par la suite le réaménagement de la maison. Et tout cela va conduire à un paysage, à un environnement, je l'ai dit tout à l'heure, le mot unique. Il faudrait, je ne voudrais pas tomber dans la caricature de celui qui pense que la région qu'il a étudiée, il n'y a que celle-là. Je pense qu'il faut... Il faudrait peut-être lancer d'autres études autour d'autres grandes villes également, parce qu'évidemment, c'est Paris, donc c'est déraisonné, l'échelle est déraisonnée, mais sur des villes intermédiaires, sur des petites villes également, je pense que plutôt que d'étudier le paysage dans son ensemble autour d'une ville, par exemple ici, il faudrait pointer certains petits pays comme ceci, et pour pouvoir comparer après si effectivement c'est unique, si ça se passe exactement pareil ailleurs ou non. Voilà. Et au final, s'il y a quelque chose sur laquelle je voudrais insister, on est face à une société rurale qui abolit le compartimentage traditionnel, voulant que le village, les jardins, les champs, les forêts soient des portions uniquement d'un terroir qui détiennent des identités propres, qui sont indépendantes les unes des autres. Au contraire, je pense qu'il faut l'envisager sous une autre réalité, puisqu'on a bien vu ici qu'il existe une étroite articulation entre tous ces fragments, et que cette paysannerie francilienne montre une forte capacité à agir, à réagir rapidement, à innover, à s'emparer de son environnement. Et alors, je vais peut-être finir sur une banalité, mais si on y pense, c'est normal, puisque ces personnes y vivent, y habitent, y travaillent, y échangent, ça faut pas l'oublier non plus, y échangent matériellement, socialement, oralement, économiquement, s'y déplacent aussi, et que ce sont ces populations, ces personnes qui sont finalement les plus à même de connaître tous les atouts de leur lieu de vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment envisager et qu'il faut vraiment retenir. Je vous remercie pour votre attention.